Bonjour et bienvenue, c'est l'épisode 23 de ITcast du 4 décembre 2015. Je suis Pascal Solière et aujourd'hui je suis en ligne avec mon collègue Arnaud Lereux. Au programme aujourd'hui, nous avons des actualités Azure, des actualités serveur, mais aussi quelque chose que vous attendez tous, les Tech Days 2016. Puis comme la sécurité est un sujet important dans le cloud mais aussi sur site, Arnaud va nous parler d'un nouveau produit, Advanced Threat Analytics ou ATA, qui va vous permettre de détecter les intrusions sur votre réseau d'entreprise. On retrouve donc Arnaud pour les actualités de la quinzaine. Bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui avec Arnaud. Salut Arnaud.
Salut tout le monde, salut Pascal.
Ça va bien, on se fait fin de semaine.
Yes. Excité par tous ces trucs qu'on a à vous raconter cette semaine.
Ah oui, en plus il y a eu un train d'annonce là, ça a été un petit peu la révolution hier soir dans Azure. Hier soir, parce qu'on enregistre ça, il faut vous le dire, il faut tout vous avouer, on enregistre ça jeudi. Et donc c'est la soirée du 2 décembre qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Donc, mais avant de parler de ça, au programme, on va donc parler de quelques actualités, hein, Arnaud, tous les deux. Et puis ensemble, et puis après, tu vas nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux d'ailleurs, qui parle de sécurité et qui est...
ATA, Advanced Threat Analytics.
Donc, pour commencer... Quelques actualités. Donc la première, hein, que peut-être pas mal de gens attendent depuis un certain temps, notamment nos partenaires, nos amis avec lesquels on travaille tous les ans sur notre événement majeur en février qui s'appelle les Tech Days. Et la question que tout le monde se pose, c'est que deviennent les Tech Days en 2016? Et donc Arnaud, on a une réponse depuis cette semaine.
Ça y est, on sait vous dire ce que ça devient. Et bien, il y aura effectivement tout un ensemble de changements en calendrier qu'on connaissait. Alors, il n'y aura plus effectivement l'événement en personne au mois de février au Palais des Congrès à la Porte Maillot. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de complètement changeant. Donc, on va commencer par un événement qui va être en ligne, sur lequel on va parler de tous les sujets que vous connaissiez, que vous aviez envie de voir au Tech Days, mais on va faire tout ça en ligne, et puis on aura un petit peu plus tard, à l'automne, un événement qui de nouveau ici sera en personne, au Palais des Congrès aussi, et c'est début octobre. Donc on aura en fait tout un ensemble de choses comme ça qui vont remplacer l'édition un petit peu en mode ancienne qu'on a connue des Tech Days, avec tout un ensemble d'éléments corollaires qui viennent compléter tout ça, Pascal.
Voilà, donc en fait, en ligne, on va avoir à partir du mois de mars, alors je ne sais pas si c'est fin mars, on verra, donc une plateforme en ligne, un site en ligne, hein, en fait, dans lequel on va trouver plein de contenus vidéo, voire d'autres types de contenus, qu'on va vous proposer pendant toute l'année. C'est-à-dire qu'on va commencer à alimenter le truc très bientôt, et puis vous aurez à partir du mois de mars une plateforme pleine de contenus sur les sujets, tous les sujets habituels qu'on va pouvoir traiter pendant l'année, que ce soit le poste de travail, les serveurs, le cloud, le dev, etc. Et puis tout ceci va être alimenté jusqu'au mois d'octobre avec ces fameux événements sur place, enfin au Palais des Congrès. Et avant ça, il y aura une phase à partir du mois de janvier pendant laquelle tout le monde sera appelé à participer un petit peu au choix des sujets, à l'élaboration des sujets, des vidéos et autres. Je ne sais pas moi, éventuellement, si vous êtes partant pour enregistrer un sujet sur un sujet de prédilection, un truc que vous aimez bien et sur lequel vous estimez que vous avez des choses à raconter. Vous nous contactez, on regarde le sujet ensemble, on monte le sujet ensemble et puis on se débrouille pour le tourner quelque part avant le mois d'octobre, quoi.
Voilà, le mot-clé, c'est participatif et disruptif, si on peut résumer tout ça, Pascal. L'idée, vous nous soumettez vos idées. On aura en fait une plateforme en ligne qui va permettre de, comme ça, soumettre vos idées, comme tu l'as dit. Et puis, on pourra échanger. Il y aura des gens qui pourront voter pour les sujets, plutôt faire monter un sujet par rapport à l'autre. Et puis, ce sera du coup 100% participatif et disruptif aussi.
on parle des tech days, tout ça, mais en fait... À la fin de l'article de presse dont je mettrai le pointeur, on dit que le nom est encore à choisir. Le nom de l'événement n'est pas encore déterminé. Donc le côté collaboratif servira également à trouver le nom. Donc c'est magique, vous allez tout faire. Nous, on va se reposer, hein, on va vous regarder faire. Et puis ça sera sympa comme tout. Ah, c'est pas ça qu'on... J'avais compris ça, mais bon. Ok.
Je suis pas certain. Ah,
ok. Bon.
En tous les cas, ce sera à l'automne, ce sera vraiment aligné avec notre actualité produit et les choses qui vont se passer, puisque vous n'êtes sans doute pas sans ignorer que, ou sans savoir qu'on va avoir pas mal d'annonces qui vont arriver entre l'été et l'automne. Hein. On attend forcément des choses autour de Windows Server 2016 et quelques autres gammes de produits. Donc il y aura, ce sera plutôt aligné avec ça. Ce sera quelques semaines après. Ignite, le fameux élément worldwide qui lui aussi avait été un petit peu décalé il y a quelques semaines déjà, on avait annoncé ça. Et ben donc on vient assez logiquement, naturellement décaler notre événement comme ça aussi.
Ok, donc rendez-vous très bientôt pour les modalités de ce côté participatif et de l'alimentation de la partie online de la chose.
Absolument.
Donc Arnaud, hier soir, ça a été la révolution dans Azure. Tout un train d'annonces le soir du 2 décembre, pour être précis. Donc, j'en compte, je sais pas moi, au moins une dizaine. Et donc, ça commence par la General Availability, n'est-ce pas, comme on dit, de Azure Backup Server. Donc, si tu veux, j'en dis deux mots, Arnaud.
Comme tu veux.
Ouais, allez, je vais en dire deux mots, parce que ça peut être rapide. Donc, Azure Backup Server, c'est... On peut considérer ça comme la version PME de DPM, de Data Protection Manager, qui existe dans System Center. Par contre, c'est une version plutôt adressée effectivement aux PME, donc sans la nécessité d'avoir System Center sur son réseau, avec une obligation d'avoir un abonnement Azure, donc pour avoir la partie stockage hors site de nos backups. Donc le serveur Azure Backup Server va faire le backup de vos données sur du stockage. Pour l'anecdote, on ne supporte plus la sauvegarde sur les bandes dans Azure Backup Server, contrairement à DPM. Et puis ensuite, il va faire le déport donc, de la sauvegarde dans Azure. Et donc, ça supporte les données classiques, donc Exchange, SQL, Hyper-V, tout ce genre de choses-là.
L'intérêt principal du produit, en fait, hein, c'est que voilà. Sinon, tu as le petit agent de recovery Azure qui permet de sauvegarder juste des fichiers, mais Azure Backup Server, lui, va permettre de sauvegarder des machines virtuelles en cours d'exécution, enfin tout ce que sait faire DPM, en fait, avec sa granularité, sa précision, hop, déporté dans Azure.
Et c'est supporté pour sauvegarder des machines, qu'elles soient physiques, dans Hyper-V ou même dans VMware.
Absolument.
Deuxième nouveauté, donc AZ Copy 5.0.
AZ Copy, c'est un peu le robot copie du cloud. Hein.
Et voilà, c'est pour ça qu'on l'aime, celui-là.
Les utilisateurs de copie en ligne de commande, donc on peut désormais inclure tout ce qui est fichier, ce qu'on savait déjà faire, mais on inclut également désormais inclut la possibilité de faire ça avec des tables, avec le format table.
Voilà, donc tout ce qui permet de scripter, d'automatiser, c'est intéressant à regarder, donc n'hésitez pas. Une annonce qui intéressera plutôt nos amis développeurs et donc sur laquelle nous, on n'est pas forcément les meilleurs pour en parler, la GA de App Service Mobile Apps. Ça concerne donc les services qui vous permettent de développer des applications mobiles avec des data en back-end dans Azure. Donc voilà, c'est quelque chose qui est maintenant en General Availability.
Autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur, Pascal, les services de containers.
Ah oui, Azure Container Service, ACS. Donc c'est en preview. On en a déjà parlé avec Stan il y a quelques semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. C'est en fait, on a fait des accords avec Docker et avec Mesosphere. Donc pour utiliser quelques parties de DCOS, qui est le Data Center Operating System de Mesosphere, ce produit, donc cet ensemble de produits plutôt qui permet de gérer de grosses infrastructures de containers, entre autres de containers, mais aussi de containers. Donc on a fait des accords avec Mesosphere pour porter tout ceci sous la forme d'un service clé en main qui s'appellera Azure Container Service, donc pour déployer de façon assez simple vos containers. Donc c'est en preview pour l'instant, en preview limitée, c'est-à-dire qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir avoir accès à cette preview. Et donc dans la boîte, hein, dans le produit, vous aurez donc Mesos, donc la partie Apache Mesos qui est la partie gestion de cluster de DCOS, mais vous aurez aussi les composants Chronos pour tout ce qui est exécution de commandes, planification de tâches sur l'infrastructure, et puis également Marathon pour tout ce qui est exécution de services à long terme sur à l'intérieur de nos containers. Le tout donc supportant aujourd'hui des containers Linux sur des machines Linux, donc des clusters Linux gérés par Mesos. À l'avenir, il y aura un portage de tout ça pour supporter des containers Windows sur des serveurs Windows, avec Docker sur Windows quand Windows Server 2016 sera disponible. Reportez-vous aux épisodes précédents du podcast. On a beaucoup parlé de containers. On a pas mal parlé avec Stanislas la dernière fois qu'on avait parlé ensemble de ce sujet-là, précisément de Docker dans Azure. Donc n'hésitez pas.
Et puis, on l'attendait depuis des mois, voire des années, le portail Azure, le nouveau portail Azure, celui avec des carrés qui glissent. Ça y est, il est globally available, generally available. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'a figé dans le temps, hein. Ça veut juste dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'optimisation, de travail dessus ces derniers mois pour qu'il fonctionne bien. Et on estime que ça y est, on est arrivé à une version aboutie, mais on continuera naturellement à rajouter des fonctionnalités et surtout à migrer les choses qui sont encore dans l'ancien portail de Azure. Alors le nouveau portail, c'est portal.azure.com et l'ancien portail, c'était manage.windowsazure.com. Donc il y a encore des choses qui sont présentes dans l'ancien portail. Je pense à Azure Active Directory, je pense aux services de plan de reprise d'activité et de backup, et bien ceux-ci sont en cours de migration et arriveront naturellement sur le nouveau portail Azure d'ici quelques semaines.
Super, on l'attendait.
Et ouais, exactement. Autre nouveauté, alors là, qui, Pascal, on aura du mal à contenir notre enthousiasme, ouais. C'est Azure Security Center.
J'avoue.
Alors, l'idée d'Azure Security Center, hein, c'est quoi ? C'est d'offrir une vision un petit peu synoptique sur tous les éléments de sécurité qui sont relatifs à ton utilisation, à ton déploiement d'Azure. Ça veut dire qu'on va pouvoir monitorer ce qui se passe sur les différentes ressources que tu as mis dans ton abonnement. Ça va, en gros, alors d'une part, être un petit peu un analyseur de bonnes pratiques de ce qui a été fait dans l'environnement. Ça va donner des recommandations sur ce qui est en train de se passer vu la configuration de l'environnement. En donnant des recommandations directement actionnables, hein, je sais pas si on dit ça en français, mais des recommandations sur lesquelles tu sais directement ce qu'il faut faire, pas des trucs génériques. Et puis, ça va pouvoir en fait s'intégrer avec les différents fournisseurs de solutions d'écosystème. Donc, tu sais que dans Azure, on a la possibilité de rajouter des appliances virtuelles de différents constructeurs. Ça peut être Barracuda, ça peut être F5, Trend Micro, Fortinet, Checkpoint, etc., etc. Tout ça sont des éléments qui font de la sécurité dans Azure. Et ben on va y compris pour ces éléments-là collecter les informations qui concernent la sécurité. Donc collecter les syslogs, collecter les différents éléments qui sont intéressants pour pouvoir en fait offrir une vue assez synthétique sur ce qui se passe, y compris dans cet univers. Tout ça couplé à aux techniques habituelles d'Azure, hein, c'est-à-dire du machine learning, du profiling comportemental et puis notre réseau de veille sur les menaces de sécurité. Et donc on va comme ça compléter, avoir un portail qui va offrir complètement une vision agrégée de tous les éléments de sécurité relatifs à un déploiement d'Azure. Donc en gros ça marche, hein, tu définis une stratégie de sécurité, ouais. Et puis ensuite tout ça va être matché par rapport à ta stratégie de sécurité, on va comparer avec ce qui est configuré dans ton environnement et puis ça va te donner du reporting en temps réel de ce qui est en train de se passer.
Oui, puis ça réutilise des technologies qui sont déjà dans le produit, enfin dans la plateforme. Hein. Par exemple, on va pouvoir dire bah, je veux que systématiquement mes machines virtuelles aient un anti-malware activé par les extensions de machines virtuelles. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va pouvoir enforcer sur nos déploiements. Quoi. Ça, c'est juste un petit exemple. Hein. Ça fait suite également aux annonces récentes qu'il y a eu autour de la sécurité dans le cloud. Cette année-là, on a parlé. Il y a eu des annonces assez précises, et notamment le Trust Center unique pour toutes les solutions de cloud de Microsoft. Cette brique permettant de définir des politiques de sécurité et de les surveiller et d'avoir des alertes fait partie de cet effort généralisé sur la sécurité dans le cloud. Donc Azure, ouais. Security Center.
Ah ouais, ce qui est clair, c'est qu'on met vraiment, vraiment tout à fond en matière de sécurité en ce moment sur Azure et dans les différents produits pour vraiment aider nos clients dans tous les problématiques et être leader dans ce domaine-là, comme on a pu l'être il y a quelques années dans la sécurité du code.
Annonce suivante, et la dernière de notre petite liste, là, Debian dans Azure. Donc ça fait des années qu'on parle de qu'on supporte Linux dans Windows, dans Azure, etc. Et puis il nous manquait deux acteurs majeurs de Linux dans Azure. Red Hat.
C'est réglé.
C'est réglé il y a un mois, le 4 novembre, on a annoncé donc le support de toutes les solutions intéressantes de Red Hat dans Azure. Donc pas uniquement les VM, mais aussi certains services Red Hat. Partenariat très étendu, hein, puisqu'on aura un support commun, enfin c'est quelque chose qui va très très loin, au-delà d'un simple support technique. Et puis là, on vient d'annoncer donc la disponibilité de Debian dans Azure, c'est-à-dire qu'on a un partenaire allemand, Credative,
yes.
Qui nous a fourni deux images de Debian pour Azure, donc une Debian 7 et une Debian 8. Voilà, donc une 7 et une 8 à jour. Donc on ne doute pas que ça va évidemment être maintenu, hein, si on regarde avec quelques lignes de PowerShell qui vont bien, si on regarde les images disponibles dans la famille Debian, on voit qu'en fait on a des daily builds également qui sont disponibles qu'on peut installer sur nos VM. Donc non seulement c'est supporté, mais en plus on a des images à jour dans la galerie et dans le marketplace Azure.
Cool. Bah, puisqu'on parle de Linux, hein, j'en profite pour mentionner un petit truc qui m'occupe un peu en ce moment, c'est le monitoring de Linux qui peut être aussi bien hébergé dans Azure ou dans un autre service de cloud que hébergé dans votre data center. Donc on peut monitorer ces déploiements avec un composant qui s'appelle OMS. Alors OMS, on a déjà évoqué quelques mots ici, hein, c'est Operation Management Suite, et c'est en gros notre service de monitoring en ligne qui permet de surveiller tout type d'éléments de production. Donc avec OMS, on va savoir monitorer du Linux, aussi bien du Red Hat, du Fuzzy, de l'Ubuntu, de l'Oracle, Linux, du Debian, GNU, du CentOS, ou même de l'Amazon Linux. Donc pour te dire qu'on ratisse large. On va pouvoir installer les agents, l'agent universel qu'on a fait pour Linux, il va être présent sur l'operating system, il va reporter à notre service OMS dans le cloud, et puis on pourra voir en gros l'état de santé de la plateforme Linux. Alors ça donne les éléments principaux du système, comme l'état de santé du disque, du réseau, du processeur, est-ce que ça marche bien, mais on sait aussi aller un petit peu plus en profondeur pour offrir une vision sur Apache, sur le serveur web. Donc c'est assez cool comme fonctionnalité.
Je mets des containers Docker dans une VM Debian?
Eh bien, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, Pascal, puisque OMS pourra monitorer ça. Il pourra tout à fait te donner l'état de santé de tes containers, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'ils sont up and running, etc. etc.
C'est magnifique.
Ouais, donc c'est plutôt cool. Les containers, j'ai mentionné Apache, MySQL, et puis les éléments basiques du système pour s'attendre à monitorer. Hein. Donc je suis en train d'écrire un petit article là-dessus, c'est assez cool, assez excitant aussi.
Ah, bientôt sur aka.ms/Arnaud.
Bien joué, merci pour la pub.
Pour terminer sur Azure, une petite nouvelle, moi, que je trouve sympathique, c'est qu'on a sorti enfin un outil... Microsoft pour accéder au stockage, à nos stockages Azure, dans Azure. Jusqu'à maintenant, on utilisait uniquement des outils tiers, hein, comme Cloud Explorer, enfin qui sont très bien par ailleurs, ouais. Qui sont tout à fait méritants et qu'on utilise toujours. Mais là, on vient d'en sortir un qui s'appelle Azure Storage Explorer, qui est en preview pour l'instant. Et sa particularité, c'est qu'il existe pour Windows et pour macOS, donc pour OS X, pardon. Donc que vous ayez un Mac ou un Windows, pas de problème, on a l'outil pour vous. Vous le trouverez sur une URL très simple, c'est storageexplorer.com. Puis il y a toutes les fonctionnalités qui vont bien pour gérer vos stockages depuis une interface graphique, cette fois-ci. Donc en plus de AZ Copy, vous avez également la version graphique de la chose.
Magnifique.
Ouais. Et enfin, tu voulais nous parler d'un partenariat, de nouveaux partenariats que Microsoft
ben,
a
noué. Un petit peu dans le, dans, un petit peu à cheval, hein, typiquement dans le monde hybride, entre le cloud privé et le cloud public. On a annoncé il y a quelques jours, plus précisément deux, un partenariat avec HP Enterprise pour effectivement Azure et Pouilly pour Azure Pack ou Stack. Alors, Azure Pack ou Stack, tu sais, c'est notre, notre solution de cloud privé. On a annoncé avec déjà quelques constructeurs une plateforme qui s'appelle CPS, qui se vend déjà pour un certain nombre de ces constructeurs. Donc on a un CPS entre guillemets premium, qui a une espèce de gros rack fait avec Dell. Et puis on a aussi annoncé des versions un petit peu plus petites pour des organisations de taille un petit peu plus modeste. Et bien c'est ce qu'on a annoncé avec HP en partie. Hein. On a annoncé un HPE Hyperconverge 250, qui est en fait une plateforme de cloud privé que tu mets dans ton data center, qui est configurée, qui implémente les meilleurs standards de software defined data center, ce qu'on sait faire, et puis c'est prêt à l'usage en fait.
D'accord, on achète la boîte et ça marche. Tu plugs, ça play.
C'est du cloud privé in a box, exactement. ensuite, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites aussi autour d'Azure et de HP Enterprise. Notamment, Azure va être la plateforme de cloud public que HP va mettre à disposition de ses clients. Ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils arrêtaient leur propre plateforme de cloud public et ils se reposent maintenant sur Azure pour offrir ce service à leurs clients. Donc, c'est assez cool de voir cette utilisation des technologies hardware HP, et puis en combinaison au mode hybride, bien de pouvoir utiliser les services d'Azure.
Terminons ce round d'actualité avec la TP4, la Technical Preview 4 de Windows Server 2016. Donc c'est pas tout neuf, c'est sorti le 19 novembre dernier. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, donc rapidement, hein, y a eu un certain nombre de nouveautés qui ont été annoncées. Moi, celle que je retiens parce que c'est les choses que j'ai testées, sur lesquelles je me suis précipité pour le tester, c'est on se refait pas, hein, c'est deux choses en fait. C'est les containers d'abord, évidemment, avec cette fois-ci comment
avec, donc on a
avec un nouveau
je fais
type
juste
de
part de mon impatience, Pascal.
Ah. Et oui, parce qu'on se voit pas, donc on n'a pas les signes. Tu vois, le langage corporel, tout ça, pour s'interrompre.
donc qu'est-ce qu'il y a de neuf, Pascal?
Et donc, au niveau des containers, il y a deux choses. Il y a d'abord la disponibilité d'une image nano-serveur pour des containers encore plus compacts et plus performants et plus rapides à démarrer, etc. Il y a encore plus de densité. Il y a le support donc, des containers sur nano-serveur également. C'est-à-dire que sur un nano-serveur, on peut exécuter des containers. Et puis, il y a le support des containers Hyper-V. Donc, les Hyper-V containers, c'est la deuxième sorte de containers dans Windows. Donc, ça sera des containers plus isolés. Donc, en fait, c'est comme des petites machines virtuelles, en fait, très légères, qui font tourner nos containers. Donc, ça permet d'avoir une meilleure isolation dans le cas où on fait du multilocataire sur un host de containers. Donc il y a ça au niveau des containers, et puis il y a des nouveautés au niveau de nano-serveurs, et notamment nano-serveurs qui va supporter plus de rôles possibles. On va pouvoir lui installer dessus par exemple un serveur DNS, un serveur IIS, du MPIO, du VMM, du SCOM, enfin des agents, donc System Center, VMM et SCOM, du DSC également, en mode push. Donc on va pouvoir configurer avec PowerShell DSC nos nanoserveurs à distance, donc ce qui est super pratique parce que déployer du nanoserveur, ben, il faut quand même les configurer par la suite. Et comme il n'y a pas d'interface graphique, on est obligé d'automatiser ces déploiements. Et donc DSC en mode push est une bonne méthode pour les automatiser. Et puis oui, sa recovery console, donc sa fameuse console en mode texte qui est sur la console, évolue également avec des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'éditer la config réseau des fois qu'on soit planté au niveau de la config réseau d'un nanoserveur. Ce qui peut être utile.
Cool.
D'autres nouveautés, mais bon, j'ai pas fouillé, donc notamment au niveau d'Hyper-V, du cluster failover, de Windows Defender, d'Active Directory, enfin, il y a toute une liste de nouveautés cette TP4.
Après, c'est plus du fixe, de la correction de bugs, notamment sur la partie réseau, il y a honnêtement pas grand-chose de nouveau. Dans la TP4, c'est vraiment des corrections de bugs par rapport au retour des clients qu'on a eu sur le contrôleur SDN et sur la gestion du trafic, en fait.
Donc le petit truc quand même, je reviens sur les containers, le petit truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait que les deux images de containers de base, donc la server core et la nano server, donc ces deux images, en fait, sont disponibles dans la galerie de gestion de package. Donc ce qui veut dire que c'est très simple à récupérer et à installer. Donc, voilà pour Windows Server 2016. Et maintenant, Arnaud, tu voulais nous parler donc de un truc qui s'appelle ATA.
Eh ben ouais, s'il nous reste un petit peu de temps, alors ça dépend. Oui. On se donne combien de temps pour en parler?
On se donne 10 minutes.
On se donne 10 minutes? Ouais, allez, je relève le défi. Donc, ATA, c'est Advanced Threat Analytics. En fait, c'est basé sur le rachat d'une société qu'on a fait il y a quelques mois à Aurato. L'idée, c'est quoi? C'est que on a vu ces derniers mois chez nos clients beaucoup de choses, ce qu'on appelle des APT, des Advanced Persistent Threats, des choses qui s'installent dans le système d'information et qui mettent tous les mécanismes en place pour y persister. Et puis pour y exfiltrer de l'information. Parmi les problématiques qu'on a observées sur le terrain, c'est que les gens se rendaient compte qu'ils étaient sous ce type de problème de sécurité assez souvent par hasard. Et puis que c'était déjà effectif depuis pas mal de temps dans leur réseau, hein, plusieurs dizaines de jours, voire de mois, dans un certain nombre de cas. L'idée, c'est que les problématiques n'étaient pas forcément visualisées par les outils de sécurité traditionnels, puisque en fait ces attaques Advanced Persistent Threat, pardon. Elle, une fois la contamination effectuée par des méthodes très pointues ou très, on va dire, classiques, mais faites explicitement pour attaquer un client, donc très, très peu détectable, eh bien, au-delà de ça, au-delà de ces premières phases, ils utilisent des outils d'administration classiques pour propager, pour persister. Donc, ce qu'on voyait, c'est que PSExec ou des choses comme ça étaient utilisées pour copier l'information, pour se loguer, pour effectuer des opérations d'administration sur le système d'information qui était, on va dire, infecté. Et donc, vis-à-vis de cet outillage standard, pareil, les outils de type antivirus et autres ne voient pas grand-chose passer. Donc en fait, ce qui est problématique et ce qui est assez symptomatique de ce genre d'attaque, c'est qu'on a des utilisateurs, des opérations qui vont se faire avec des comptes utilisateurs qui sont un petit peu suspects. Donc c'est vraiment le comportement ici qu'il faut essayer de traquer. Donc ce que permet de faire ATA, Advanced Threat Analytics, c'est exactement ça en fait. C'est de faire une baseline de ce qui est en train de se passer sur un réseau. Et puis à partir de cette baseline, commencer à déterminer des comportements suspects. L'idée, elle est assez simple, elle est de se dire, ben voilà, Pascal, l'utilisateur Pascal se log tous les jours entre X et X heures. Il voyage de temps en temps, pas beaucoup. Il va se connecter à un ou deux serveurs de fichiers, par exemple, ou un ou deux SharePoint, pour faire son travail de tous les jours. Mm-hmm. Puis d'un seul coup, Pascal, son compte utilisateur, on voit qu'il se log sur 200 serveurs dans l'entreprise.
Voilà.
Et là, on se dit, alors soit Pascal a récupéré de nombreuses responsabilités d'un coup, hein, ce qu'on ne peut pas en toute rigueur exclure. Mais c'est quand même assez suspect comme comportement.
Ouais, surtout si en même temps j'accède à 200 serveurs, mais depuis des lieux un peu éloignés. Ou...
Et depuis des lieux éloignés, depuis. T'avais habituellement une workstation, et puis maintenant tu te logs depuis 200 workstations sur 200 serveurs. Mm. Donc il y a un changement de comportement qui est assez important, et puis qui est pas du tout stéréotypé par rapport à l'utilisateur classique et aux utilisateurs au sein de ton groupe. Donc ce que l'ATA va faire, c'est qu'il va déterminer que, par exemple, comparé à Stan ou moi, ben, effectivement, le compte il était utilisé sur plein de ressources, alors que ce n'était pas le cas pour les nôtres.
Ouais.
Donc voilà un petit peu, c'est d'analyse comportementale qui est fait sur l'utilisation des ressources dans un système d'information. Plutôt intéressant, plutôt cool comme complément des méthodes de protection classiques qui vont utiliser dans un système d'information. Hein. Donc là, je vous ai décrit un peu ce scénario classique qui se passe, mais après, il y a plein d'autres problématiques de sécurité qui peuvent se passer. Hein. Typiquement, on peut avoir affaire à des machines infectées qui vont faire des trucs un petit peu plus techniques, comme du protocole downgrade. Tu vois, par exemple, une machine qui va essayer de s'authentifier en utilisant des vieux protocoles, genre LM, tu vois. Il y a des clients qui n'ont pas encore désactivé le protocole Load Manager, qui est activé par défaut, hein, si on prend l'exemple de Windows Server 2003. Donc, mm-hmm. on peut utiliser LM, NTLM, et puis ensuite Kerberos comme mécanisme d'authentification. Donc, on peut avoir des machines qui vont avoir un comportement suspect, type activer l'authentification LM pour tirer parti de faiblesses. Donc, ça fait partie des choses qu'on sait détecter également. Après, les attaques et les attaques classiques, ça va être des attaques de type vol de tickets, des attaques de type PASIAS, des attaques de type ticket forgé. Tu sais, par exemple, où tu vas créer toi-même un ticket Kerberos en disant bah, « c'est moi l'admin ». Alors qu'en fait, tu n'as jamais demandé de ticket au contrôleur de domaine et tu es en train d'essayer de le présenter à des serveurs. Les attaques de reconnaissance, les attaques par brute force, etc. Donc on sait détecter ces choses-là aussi assez classiques. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, c'est assez simple. On va se mettre en mode port mirroring avec les contrôleurs de domaine de l'organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'installe aucun composant sur un contrôleur de domaine de la production. On va simplement déployer des serveurs dans l'entreprise qui vont être là en miroir de nos contrôleurs de domaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un contrôleur de domaine, on va mettre une machine en face qui va recevoir un duplicat du trafic réseau. Et à partir de ce trafic réseau, en fait, ATA va déterminer ce qui est en train de se passer sur l'organisation. Alors avec des serveurs, ce qu'on appelle des passerelles, ça c'est ce serveur que je viens de décrire, c'est celui qui est en miroir des contrôleurs de domaine. Et puis ces passerelles vont consolider l'information à l'intérieur d'un centre. Et ce centre, en fait, c'est lui qui va faire l'intelligence d'aller voir ce qui est en train de se passer sur tous les contrôleurs de domaine en temps réel, et puis de reporter les problématiques de sécurité qu'il a détectées.
D'accord, donc on installe des gateways de passerelles là, partout où il y a des contrôleurs de domaine, sur les switches, donc ça suppose de travailler avec l'équipe réseau.
Absolument.
D'avoir une bonne entente entre l'équipe sécurité, l'équipe réseau et l'équipe Active Directory, enfin ceux qui gèrent l'Active Directory.
Ouais, c'est un petit peu le ticket d'entrée pour la mise en œuvre de cette solution. Alors effectivement, si on parle de machines physiques, bah, il faut aller sur les switches pour faire les opérations. Après, il faut se poser la question de est-ce que le switch il est à côté du contrôleur de domaine. Donc tu vois, ça se pose des petites questions d'architecture réseau qui sont intéressantes.
Ouais.
Selon les modèles de switch réseau, on a effectivement la possibilité de faire du port mirroring à travers différents switches. Ça, c'est plutôt pour les switches haut de gamme, hein, pour rien de cacher. Et puis après, pour une situation qui est en fait un reflet de la situation actuelle, pour les switches virtualisés, pour les contrôleurs de domaine virtualisés, bah là, c'est relativement simple. Hein. On va sur Hyper-V ou on va sur l'environnement de virtualisation préféré, et puis ça se configure relativement facilement. Un port mirroring entre un DC virtualisé et puis la deuxième machine virtuelle qui va servir de passerelle
data. D'accord. Donc là, ce sera plutôt l'admin à Hyper-V qui sera mis à contribution pour mettre ça en œuvre.
Exactement.
Ok. Pardon. Ouais. Oui, en regardant l'architecture, je vois qu'il n'y a pas que l'aspect capture de trafic réseau, mais il y a également de la remontée d'événements.
Ouais, exactement. Alors en fait, on va savoir s'enrichir de d'autres choses qui existent dans le système d'information. Tu vois, on a déjà pas mal de clients, enfin pas mal, honnêtement pas assez, hein, qui ont déployé des SIUM, tu sais, des systèmes qui vont centraliser les journaux d'événements de sécurité et tous les événements de sécurité de l'organisation. Et ben en fait, on va savoir tirer parti de ces systèmes-là aussi en allant récupérer les logs dans les SIEM et en contribuant au SIEM pour analyser, y compris ce qui se passe en dehors du monde Microsoft, parce que ça peut faire sens également de détecter des problématiques sur le réseau. Donc on va avoir comme source d'information effectivement à l'ATA Center les ATA Gateway qui vont monitorer un ou plusieurs contrôleurs de domaine et puis les SIUM qui, via un syslog forwarding, vont envoyer les informations qu'ils ont sur l'état de sécurité de l'organisation. Donc plutôt cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le reporting de ATA, il est très très simple, voire même sexy. Ce qui, pour une solution de sécurité, n'était pas gagné d'avance. Hein, on connaît
Ouais.
tous les solutions de sécurité dites usine à gaz, hein, où c'était tellement compliqué qu'on se dit, ça doit être vachement puissant. Hein, alors qu'en fait, non, c'est juste un truc que personne ne sait maîtriser et qui sert juste à faire une belle décoration.
Et puis le problème, en général, dans ces solutions-là, c'est qu'il faut que ce soit utile.
Donc là, ce que fait ATA, c'est qu'en fait, il va t'offrir un reporting assez adapté à la génération Y, hein, parce que c'est un petit peu en mode timeline. Donc c'est qu'en fait, tu as une console web, et puis tu vois la séquence temporelle des éléments qui sont passés. Et tu sais cliquer sur tout ce qui s'est passé, en fait. Donc tu vas pouvoir aller observer que, tiens, Pascal a une activité suspecte. Il était habituellement sur deux ordinateurs, il est maintenant sur 10 ordinateurs et 200 serveurs. On va pouvoir aller voir qu'il y a eu, comme ça, des opérations de scan massive, des opérations de suppression massive, des opérations de purge des logs sur les décès qui ont été faits. Donc tout ça, ça va apparaître dans une timeline. Et donc, du coup, on va pouvoir faire sens dans le temps d'éléments. On va pouvoir voir que, tiens, on a eu tel exécutable bizarre qui a été lancé sur telle machine. Ah, tel compte, il a été utilisé depuis maintenant 10 machines à la place d'une seule. Ah, maintenant, ça s'est étendu sur sur tout l'environnement. Et donc du coup, tu vas savoir aller comme ça analyser chaque événement. Et surtout, il y a une recommandation d'action à chaque moment en fait. Pour dire, bah voilà, on a détecté que tel client avait posé tel problème sur tel réseau. On pense que ce qui est nécessaire, c'est que tu ailles voir les tâches planifiées sur telle machine parce qu'il y a peut-être un problème avec tel exécutable. Donc c'est directement un truc qui est assez sympa et sexy. Et puis autre chose, ça te permet aussi d'avoir des stats sur ton environnement qui sont assez sympas. Moi, je vois par exemple, j'ai mis ça en œuvre sur une plateforme de test qu'on a chez Microsoft. Et tu tapes par exemple un nom d'utilisateur, tu tapes Arnaud. Et tu sais voir en fait l'actualité que j'ai pu avoir. Donc je suis logué sur telle et telle machine. J'ai eu telle demande ticket Kerberos qui a été faite à tel moment pour aller me connecter sur telle machine. Et tu sais revenir dans le temps en fait comme ça sur ce qui s'est passé. Tu sais voir les groupes dangereux de type Enterprise Domain Admin, ce qui s'est passé avec l'appartenance à ces groupes de sécurité, des gens qui sont ajoutés, qui sortiraient dedans. Donc c'est en fait vachement cool comme solution et vachement utilisable.
Ah ouais, parce que si vous avez déjà essayé de lire des event logs de sécurité sur des contrôleurs de domaine, en général, il faut s'accrocher, quoi. Enfin, il faut connaître la signification de chaque sous-événement, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a N événements lors d'un logon, par exemple, c'est pas juste un événement, quoi. Il y en a toute une
Ouais,
liste.
ouais, ouais. Honnêtement, c'est carrément plus sexy à s'occuper
Ouais.
que la méthode classique, hein.
Plus le fait que ça centralise donc dans c'est le ATA Center hein, c'est ça qui centralise donc les événements qui viennent des gateways et donc là de ce dont tu parles donc dans le rapport là c'est le résultat d'une centralisation d'une mise en commun de tous les événements de tous les contrôleurs de domaine qu'on va trouver dans l'organisation quoi
Absolument, Pascal,
enfin,
absolument.
événements et capture de trafic et etc. quoi.
Yes. Donc, pas à douter qu'on en reparlera
Ah oui.
assez prochainement dans différents médias. Hein. Allez, on peut même se faire un petit teaser en disant qu'on en parlera dans concrètement d'ici quelques semaines et puis qu'on en parlera sur la Microsoft Virtual Academy aussi en détail pour savoir comment est-ce qu'on le met en œuvre.
Cool. Donc rendez-vous est pris.
Je crois ne pas avoir trahi de secret, Pascal.
Donc une petite démo dans effectivement concrètement en vidéo et bah, comme son nom l'indique, hein, concrètement, ça sera de bonne aloi.
Impeccable. Je sais pas si j'étais dans les 10 minutes que tu m'as imparti par contre.
Ben j'ai pas vérifié, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Écoute, cool. Si, ça fait à peu près 12-13 minutes, donc le contrat est respecté. Ben écoute, je crois Arnaud qu'on a fait le tour pour cet épisode de ce qu'on voulait présenter. Quelque chose à rajouter, non?
Merci.
Au niveau de, quand même, pour terminer, au niveau de notre actualité, tiens, puisque ce sera avant le prochain épisode, je crois que, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le 16, hein, c'est ça, on parle à un événement chez nos amis, chez nos voisins belges.
Ouais, on sera effectivement à Mons le 16 décembre, donc Outre-Quévrin.
Voilà, pour un événement qui s'appelle, j'ai oublié le nom.
Il s'appelle IT Day 2015 au Microsoft Innovation Center. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Je ne sais pas comment on va faire pour mettre tous les sujets dans la même journée, mais il y a un sacré programme, parce qu'il y a... alors, ce sera Serge Lucas, qui est MVP sur SharePoint, qui nous parlera de SharePoint 2016 et Power BI 2.0. On aura... Isabelle Van Kampenhout qui nous parlera, qui est MVP SQL Server, hein, qui nous parlera de SQL Server 2016. Et puis on aura le bonheur, le plaisir, le privilège de vous parler de Windows 10 en entreprise et puis de Azure IaaS V2.
Super. Eh bien Arnaud, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir à tous.
Pascal.
Merci de nous écouter. Et puis à dans 2 semaines. Au revoir.